أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Au nom de Dieu, Seigneur des terres et des cieux. Que le salut et la paix soit sur Mohammed et sur sa sainte famille. Jusqu'à présent, dans les émissions qui ont précédé, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé de quoi des bases d'une forteresse pouvant nous permettre de nous défendre contre les agressions et les dissuasions que voudrait nous apporter le diable. Cette forteresse et les bases spécialement de cette forteresse, nous en avons cité 6. Je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Je pense que même ce que nous sommes en train de parler jusqu'à présent autour de ces 6 peuvent être des bases en fait. J'ai considéré cela comme des bases. On avait parlé de la croyance, de la piété, de la sincérité, de la confiance, et en plus de la confiance, de l'attachement à Dieu, et de la résistance. Puis nous avons vu quelques ciments, c'est-à-dire quelques moyens de consolider ces bases de notre forteresse. Par des actions qui font que notre vie de tous les jours se retrouve plus belle et se retrouve et nous donne un aspect de bonheur. Nous avons parlé du repentir, nous avons parlé de la fidélité à l'engagement, de l'honnêteté. Mais un des liens qui permettrait de maintenir correctement la base et qui est en relation avec la confiance et l'attachement et la résistance et l'attachement à Dieu, c'est ce lien, c'est ce qu'on appelle la patience. Nous avons vu dans les émissions précédentes que certains moments, notamment dans l'émission sur la confiance, nous avons vu que lorsque on prie Dieu pour avoir quelque chose, par exemple une voiture, il se peut que Dieu ne nous donne pas la voiture tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, il sait que c'est mieux pour nous de ne pas avoir. Donc, on devra avoir confiance en Dieu et patienter. Mais c'est pas la patience que le sujet d'aujourd'hui. C'est pas cette patience-là, c'est pas le fait d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Non. La patience, as-sabr, en arabe, c'est un peu plus que de la patience, c'est de la constance. C'est le fait d'être solide, d'être constant dans ses actions, face aux difficultés de la vie. Nous avons plusieurs versets du Coran qui parle justement de la patience. Le premier verset que dans le chapitre 2, verset 153, dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui croyez, demandez l'aide à Allah, à Dieu, pour avoir de la patience et pour pouvoir faire votre prière. Allah est avec ceux qui sont patients. C'est-à-dire que Dieu nous demande de lui demander d'avoir de la patience. Et on parle surtout de ce que l'on aura si on reste constant, si on reste patient face aux difficultés de la vie. Dans le chapitre 39, verset 10, on retrouve إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ceux qui sont constants, ceux qui sont patients, ceux qui endurent les difficultés de la vie, recevront leur incommensurable récompense. Dans le chapitre 13, verset 24, nous pouvons lire Salamun alaykum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Que la paix sur vous était constante. La demeure finale est excellente. C'est-à-dire que le jour du paradis, le jour du jugement dernier, lorsqu'on ira au paradis par notre patience, par notre constance, Dieu nous dira que la paix soit sur vous maintenant. Parce que vous avez été constant. Et maintenant, la demeure où vous êtes maintenant est bien plus belle que ce que vous auriez pu imaginer. Dans le chapitre 16, verset 96, nous pouvons dire وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous donnerons leur récompense à ceux qui auront été conscients, constants, de meilleures actions. C'est-à-dire que si nous sommes constants, Dieu nous donnera notre récompense en fonction des meilleures actions que nous avons faites. Enfin, dans un autre verset, dans le chapitre 18, verset 28, Dieu nous demande de rester constants en compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur en voulant être proches de Dieu. Le verset dit ceci. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dieu nous demande de rester en compagnie de ceux qui ont de la patience, qui ont de la constance. Car cela est une bonne chose pour nous. Cela nous permet d'avoir de la constance, d'avoir de la constance dans nos actions. La question qui se pose maintenant est... qui est une question qui en fait traite de la patience. C'est ceci. Pourquoi avons-nous des difficultés dans cette vie? Nous avons vu une des difficultés qui était le fait que quand on reste dans la sincérité, quand on reste dans le chemin droit, dans le chemin de la vérité, les gens autour de nous n'aiment pas cela. Et nous attendent des vies difficiles. Mais comme nous avons vu aussi dans les versets qui concernent ceux qui sont sincères, ceux qui restent dans le chemin droit, qui sont résistants, qui sont confiants, Dieu nous aide à surmonter ces difficultés. Alors pourquoi est-ce que Dieu maintenant nous demande de demander de la patience face aux difficultés, alors qu'il nous protège sur ces difficultés? Si Dieu le veut, la personne en face de nous ne peut rien faire pour nous. Alors, pourquoi nous demander d'être patients? On retrouve la réponse dans les versets 155, 156 et 157 du chapitre 2. Ces versets disent ceci. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. Le verset dit ceci. Nous vous éprouvons par un peu de crainte, de faim, par des pertes légères de biens. Alors ici, ils ont traduit par d'honneur et de récolte. J'irai plus loin, je dirais par des pertes légères de biens, de vie, et sur vos enfants. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, à ceux qui disent, lorsqu'un malheur les atteint, nous sommes à Allah et nous retournerons à lui. Voilà ceux sur lesquels descendent les bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur. Ils sont bien dirigés. Que dit ce verset? Il dit que Dieu nous éprouvera, nous testera, nous mettra dans des épreuves par de la crainte, un peu de crainte, par de la faim, par des pertes légères de nos biens, par des pertes légères de personnes autour de nous, par des difficultés avec nos enfants. Et il dit que ceux qui disent que finalement nous sommes à Allah et nous retournerons vers lui, eux seront les gens patients. Et eux auront la bénédiction divine et seront bien dirigés. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce verset? Je vous mettrai un exemple simple, c'est celui d'une école, d'un enfant qui rentre à l'école. Pourquoi est-ce que l'enfant qui arrive à l'école, commence à la classe de CP, jusqu'à la classe, en montant jusqu'au baccalauréat, puis l'université, puis le doctorat, puis arriver à devenir un chercheur, une personne dans la société. Que cherche cette éducation? À former une personne de façon à ce que cette personne arrive à être la personne la plus parfaite, la meilleure personne par rapport aux autres. Dans la vie de tous les jours, Dieu nous a créés pourquoi? Pour qu'on atteigne la perfection. La perfection, c'est cette étape éternelle, c'est cette étape qui nous permet de vivre avec la plus belle chose qui existe. La perfection dans tous les domaines, dans la sagesse, dans la connaissance, dans la patience, dans tout ce qui existe autour de nous. Comme qualité de l'homme, comme qualité qui font de nous des êtres meilleurs que n'importe quel autre être créé jusqu'à présent. Et pour arriver à cette perfection, l'être humain doit se développer, doit monter des échelons, doit arriver étape par étape. Et il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question d'environnement, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question, non, c'est Dieu qui est maître des choses. Ce n'est pas parce qu'un enfant qui est né handicapé, qui a une main en moins ou un pied en moins, n'arrivera pas à la perfection. Et moi, j'arriverai à la perfection parce que j'ai deux pieds et deux mains. Non, ce n'est pas le critère. Nous avons vu le critère dans les émissions précédentes. Nous avons vu que le critère qui fait que un être humain en face de Dieu est considéré comme quelqu'un de bien, c'est la piété. Et la piété n'a rien à voir avec l'aspect physique. C'est le fait d'agir que pour Dieu, que par crainte que Dieu ne soit pas satisfait de nous. C'est de la perfection qui nous permet d'atteindre la perfection. Donc, Dieu nous met en épreuve, nous met en test. Pourquoi? C'est comme à l'école. Quand vous allez à l'école, que vous êtes en CP et que vous devez rentrer l'année prochaine en CE1, vous devez passer des examens. Pourquoi? Afin de savoir quel est votre niveau, pour vous-même, pour savoir si vous êtes capable d'arriver à suivre les cours du CE1. Si vous ne passez pas d'examen et que vous montez directement en CE1, vous ne saurez jamais si vous êtes capable réellement de suivre les cours du CE1, ou alors non, juste simplement vous avez, par coup de chance, réussi à trouver la bonne réponse. Mais vous n'avez rien compris à la leçon. Que vous ne soyez pas attentif, ce n'est pas un mal. Ce qui est mauvais, c'est de monter dans l'échelle précédente, dans l'échelle suivante, en n'ayant pas compris. Le mal, ce n'est pas de redoubler. Le mal, c'est de monter en ayant triché. Le mal, c'est d'être monté en n'étant pas capable, en n'étant pas dans la mesure de pouvoir réussir par la suite. Le professeur est prêt à vous répéter son cours 2 fois, 3 fois, 5 fois, mais il n'est pas prêt à perdre son temps 50 fois pour quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre le cours. Donc, de la même façon, monter les échelles, les échelons qui nous permettraient d'arriver à la perfection, à une différence près par rapport à notre C, qui nous sommes. Et c'est si nous avons menti, triché, si nous sommes réellement capables ou pas. On nous fait passer des examens. Et c'est par le résultat de ces examens que nous allons comprendre qui nous sommes. Et que nous allons comprendre où nous sommes. Dans quel échelon nous arrivons. Dieu t'a donc dit que nous allons que Dieu allait nous éprouver dans ce monde par différentes choses. Par quoi est-ce que Dieu, quelles sont les choses que Dieu peut utiliser pour nous éprouver? Est-ce que Dieu peut nous éprouver sur des choses que nous avons contrôle? C'est-à-dire le fait de la main ou de baisser la main, le fait de penser, de dormir, le fait de conduire une voiture, nous-mêmes, par notre propre gré. Par exemple, est-ce que Dieu peut nous tester en nous enlevant le sommeil? Non. On pourra toujours tricher, forcer la chose et dormir. Dieu va nous tester sur des choses que nous n'avons pas contrôle, dont nous ne pouvons pas contrôler les choses, les événements. Par exemple, la crainte. Est-ce qu'on est capable de prévoir notre réaction face à une crainte? Par exemple, vous arrivez dans une situation où vous êtes en face de gens que vous ne connaissez pas, armés, qui sont un peu méchants. Vous avez un peu peur. Dieu vous fait mettre dans une crainte, dans une situation de crainte, et veut savoir ce que vous pensez dans cette situation. Est-ce que vous pensez toujours à lui? Ou est-ce que vous pensez pouvoir vous en sortir vous-même? Est-ce que vous pensez vous développer vous-même? Nous avons vu aussi un exemple concernant le bateau. Le fait d'être dans la mer, au milieu de la tempête, de craindre pour sa propre vie, et de se demander et de demander à Dieu de nous aider. Donc cet examen de la crainte, ou alors un examen sur la faim, un peu de faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, imaginez que aujourd'hui vous aviez un chèque à endosser qui vous permettait de vivre pendant 2-3 jours tranquillement, et que quand vous arrivez à la banque, le chèque, il est sans provision. Le temps que vous portiez plainte, que vous fassiez ceci, que la banque se mette en marche et tout ça, mais vous avez 2-3 jours en face de vous, vous n'avez pas d'argent. C'était quelque chose que vous n'avez pas pu prévoir, que vous n'avez pas pu contrôler. Mais vous êtes dans cette situation. Ok, vous patientez. Vous vous dites, non, de toute façon, ça ne dure qu'un petit bout de temps. Mais c'est un peu difficile à patienter. Est-ce que vous allez vous dire que non, c'est Dieu qui a mis ça? Ou est-ce que vous allez dire non? De toute façon, vous devenez coléreux, et vous commencez à engueuler, à crier, à insulter les gens autour. Parce que vous êtes dans une situation que Dieu a voulu vous mettre. Involontairement, peut-être, ou volontairement. Pour vous tester. Pas de perte légère de bien. Il se peut que, par exemple, vous perdiez votre voiture. Qu'on vous vole votre voiture. Que quelqu'un vous vole votre argent. Est-ce que vous allez demander, bien sûr, il faut aller à la police, bien sûr, on va aller porter plainte. Mais est-ce qu'on a confiance en Dieu suffisamment pour savoir s'il va nous remettre la voiture? Finalement, qui c'est qui va retrouver la voiture, le policier ou Dieu? Si Dieu le voulait, le lendemain, vous aviez votre voiture. En fait, vous êtes dans une situation où vous demandez à Dieu. Dieu veut savoir si vous allez lui demander à lui ou est-ce que quelqu'un d'autre va le trouver pour vous. Sur la perte de votre nafs, c'est-à-dire des gens autour de vous. Vous aviez un frère que vous aimiez, qui était un soutien pour vous, et il meurt. Vous vous retrouvez sans soutien, vous vous retrouvez sans moyen d'existence. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pourquoi est-ce que Dieu a pris mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait moi comme mal? Pourquoi est-ce que ce mal me tombe dessus? Ou alors sur vos enfants. Et là, c'est très difficile comme test. Vous avez une petite fille ou un petit garçon qui tombe malade. Une maladie très difficile à soigner. Il devient handicapé. Il devient ceci, il devient cela. Vous ne savez pas du tout comment contrôler la situation. C'est une chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est votre enfant. Vous l'aimez. Ce genre de test permet à Dieu vous permet vous-même de vous tester. Vous êtes où par rapport à cette situation? Vous êtes où par rapport à votre enfant? Vous êtes où par rapport à votre argent? Vous êtes où par rapport à vos amis, vos frères, vos proches qui meurent? Est-ce que vous êtes avec Dieu? Tout le temps avec Dieu, à ne penser qu'à Dieu, à essayer de voir et à demander Dieu, à Dieu seulement de l'aide. La patience, c'est quoi finalement? La constance, c'est quoi? C'est-à-dire que, oui, d'accord, Dieu m'a mis dans une épreuve. Oui, d'accord, je suis dans une épreuve. Alors, il existe deux solutions. Soit on dit que non, pour où il est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas m'aider? Où est-il? Et on commence à s'énerver contre Dieu. En lui disant des choses, en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas m'aider quand j'ai besoin de toi? Et là, Dieu vous dit, mais je suis là. Je suis là. Je suis présent. Pourquoi tu ne me demandes pas de t'aider? Pourquoi tu m'engueules? Pourquoi tu me cries dessus alors que simplement tu me demandes de t'aider? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Une autre chose, c'est que des fois, les tests, ce sont des choses qui sont bien pour nous. Et que nous ne voyons pas. Nous voyons que le mal. Nous voyons que des difficultés, alors que nous ne savons pas que ces difficultés, en fait, sont quelque chose qui va nous aider par la suite. On a patience, c'est-à-dire qu'on est constant quand en fait on ne sait pas pourquoi, la raison pour laquelle la chose se fait. On sait que c'est un test de Dieu. On sait que Dieu veut nous tester. On sait que c'est quelque chose qui vient que de Dieu. Mais là, on ne sait pas, c'est pourquoi. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et à ce moment-là, Dieu nous demande d'être constant, d'être patient dans l'action. De faire l'action qu'on avait l'habitude de faire. De rester à implorer Dieu. Et de dire, en fait, que nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, finalement Dieu nous montrera la vérité, nous montrera pourquoi. Et à ce moment-là, Dieu envoie ses bénédictions et sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il nous sort de ces difficultés. Et à ce moment-là, et c'est la plus belle des choses que Dieu peut nous donner, il nous dirige, c'est-à-dire qu'il nous dit en fait, qu'il nous fait comprendre en fait la raison pour laquelle on a eu cette difficulté. Si quelqu'un n'arrive pas, n'a pas la chance, c'est d'ailleurs qu'il passe un test, qu'il passe une difficulté et qu'en fin de difficulté, il n'arrive pas à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui a changé en lui. C'est comme si un élève passait un examen et qu'on ne lui donnait pas sa note. En fait, lui donner la note, lui donner la raison pour laquelle il a passé cet examen, c'est la plus belle chose que Dieu peut donner. Et il ne le donne qu'à ceux qui réussissent. Ceux qui ratent leur examen repassent, redoublent. Mais comme Dieu n'est pas quelqu'un de tyrannique, il ne fera jamais le même test. Parce que nous avons échoué une fois. Donc il nous fera faire un test beaucoup plus. Sur un test qui se faisait en une journée, où on devait gagner par exemple de la patience. Comme on a échoué le test, Dieu nous fera en 2 jours, avec 2 examens simples, plus simples que le premier, de façon à nous remonter dans cette patience. Maintenant, si on rate nos examens, et on continue à rater, on continue à rater, on continue à rater, à un moment, pour arriver à l'échelon de la patience, il nous faudra 300 ans. Et on n'a pas une vie de 300 ans. Donc, on mourra sans patience. Les gens sont dans des niveaux. Certains sont prêts à monter, continuent à monter rapidement. Montent les échelons. Se développent, continuent à se développer. Apprennent, changent, évoluent vers la perfection. D'autres non. Ne font que échouer sur leurs examens. Échouer sur tout ce qui se passe. Par eux-mêmes. Et Dieu ne les lâche pas, et Dieu ne veut pas les laisser. Il continue à les guider, il continue à leur envoyer des signes, il continue à les tester. Mais les tests deviennent de plus en plus faciles, afin de les faire monter parce qu'ils peuvent pas réussir, ils ont raté un examen difficile. Donc ils ont des tests de plus en plus faciles. Et ils ratent les tests faciles. Et donc, finalement, reste comme ça. Par exemple, si Dieu veut nous tester, notre façon de donner, notre générosité. Il se peut qu'un jour, un mendiant vient et vous dit « Je veux 100 euros. » 100 euros, c'est énorme. Mais vous les avez dans la poche. Vous lui donnez ou vous ne lui donnez pas. Si vous donnez, vous avez passé les tests de générosité. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de dire à Dieu que « D'accord, je lui donne, mais c'est toi qui me donne par la suite. » Vous avez confiance en Dieu. Vous savez que Dieu va vous rendre ces 100 euros. Soit non. Soit vous dites « Non, je ne peux pas te donner 100 euros, c'est trop. » À ce moment-là, Dieu vous donnera quelqu'un à 50 euros. Vous demandera 50 euros alors que vous avez 100 euros. Vous continuez à ne pas le donner. Il y aura quelqu'un à 20 euros, à 10 euros, à 1 euro, et vous avez 100 euros dans votre poche. Continuez toujours pas à donner. À ce moment-là, une petite chose, une fleur, un stylo, un crayon, un morceau de papier, quelqu'un viendra vous demander. Vous direz non, je ne veux pas donner. J'ai besoin de ce morceau de papier. Alors Dieu va descendre encore plus bas dans les examens. Il va vous demander une écorce, un grain, une coque, par exemple, de noix. Quelque chose d'inutile pour vous. Si vous donnez, à ce moment-là, on va peut-être augmenter un peu plus et remonter les examens. Mais en fait, les examens sont descendants pour ceux qui perdent et augmentants pour ceux qui réussissent. Celui qui aura donné 100 euros aujourd'hui aura gagné, le niveau de générosité. Et Dieu pourra compter sur sa générosité par la suite. Mais celui qui ne peut pas être généreux devra repasser des tests, repasser des tests et repasser des tests. Donc ces tests sont obligatoires afin de nous évaluer, de savoir à quel niveau nous sommes dans la société. Nous sommes par rapport à Dieu. Donc Dieu nous demande d'être patient. On reprend les versets que nous avons parlé aujourd'hui. Dans le chapitre 2, verset 153, « Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati ma'abirin. » Ô vous qui croyez, demandez l'aide de la patience et de la prière avec ceux, à l'aide avec ceux qui sont patients. Oui, demandez à avoir de la patience, parce qu'il est très difficile, si vous n'avez pas de patience, de pouvoir continuer et de pouvoir aller plus loin. Ceux qui sont constants recevront leur incommensurable récompense. Oui, bien sûr, puisqu'une personne qui est constante gardera, montera dans les niveaux, dans les échelons. Que la paix soit sur vous, parce que vous avez été constant. La demeure finale est excellente. Alors, le chapitre précédent, c'était dans le chapitre 39, verset 10. « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabin. » Que la paix soit sur vous, parce que vous avez été constant. La demeure finale est excellente. Oui, bien sûr, puisque la constance nous apportera la perfection. Chapitre 13, verset 24. Salamun alaykum bima sabartum. Nous donnerons la récompense à ceux qui ont été constants en fonction de leurs meilleures actions. Wala najzi alladhina sabaru wa ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Enfin, restez en la compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur en désirant leur face. Chapitre 18, verset 28. Oui, pourquoi? Parce que en restant avec ceux qui ont de la patience, qui ont de la constance, en voyant leurs difficultés, la vie de tous les jours qu'ils vivent, on prend des leçons aussi. Ce n'est pas simplement nous qui devons vivre les choses, mais en regardant autour de nous, en voyant quelqu'un qui a de la patience, qui voit, on voit comment il gère la situation avec un fils malade, avec une femme en train de mourir, avec des biens qui lui échappent. À ce moment-là, on voit que cette personne garde confiance en Dieu, continue à garder confiance en Dieu. Et quand on voit que cette personne finalement réussit à sortir, on a confiance en Dieu. Et enfin, le verset qui explique tout ça, c'est le chapitre 2, les versets 155, 156 et 157 qui disent « أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Donc ce verset qui en fait nous dit qu'est-ce qui se passe dans la réalité. وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.